en direct du studio à Montréal. Vous écoutez Le Candidat avec Gilbert Thibaudeau.
Hey, salut tout le monde! Neuvième! On est rendu à la neuvième. Je devrais commencer aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. C'est rare, hein? Normalement, j'ai l'impression que je me choque des nouvelles. Mais là, aujourd'hui, avant l'hommage, là, je vais vous le dire. Ça vient d'arriver aujourd'hui et vous rappelez-vous que j'ai dit je ne donnerai pas mes positions concernant les élections aux provinciales qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Je ne sais pas, j'avais ça dans la tête, eh bien, c'est arrivé. Ça va être vraiment une belle campagne. Vous allez être étonnés, mais je vais vous le dire quand même. Durant la campagne électorale, vous connaissez le nom de l'émission, Le Candidat. C'est parce que j'étais candidat à Montréal. Et durant la campagne, j'étais mal à l'aise avec le REM, de la façon qui a été présentée. Vous vous rappelez, le REM, ça vient avec le ça vient avec un pont. Ça vient avec un pont. Le REM, Pont Champlain. Caisse de dépôt, présente son projet, le REM. Puis pendant la campagne, là, M. Coderre, il se vantait. Très, très bon pour Montréal. Mme Plante suivait à peu près ce que M. Coderre disait. Moi, je disais, non. C'est bien, mais c'est pas bien. On oublie l'Est de Montréal. Bien là, je vous le dis, je suis étonné. Aujourd'hui, ça vient de finir, là. Ça fait pas 2-3 heures de ça, 4 heures là, que c'est sorti, là. Jean-François Lisée, j'ai même vu, je pense, Nicolas Marceau, qui était là durant la conférence de presse. Là, ils ont parlé du REM. Mettons qu'ils ont exagéré en disant on scrape ça, puis on recommence. Mais ça sonnait exactement comme là, je disais pas certain que ça va me faire adorer Jean-François Lisée. Mais là, le Parti québécois, je pense qu'il rentre dans la course. Là, c'est une refonte complète. Vous savez de quoi je parle quand je dis le REM, hein? Le fameux train là, qui va traverser, puis ça va aller desservir finalement Dorval, l'aéroport de Montréal. Là. Sauf qu'il ne tournait pas du tout vers l'est de Montréal. Il servait l'ouest de Montréal qui en fait, est des fils défusionnés. Là. Je ne répéterai pas, là, l'ouest de Montréal, là, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'en allait par là, vers l'ouest. Mais là, en tout cas, avant mon hommage aujourd'hui, là, pour que je vous en parle, là, c'est parce que je veux faire un beau clin d'œil. Jean-François Lisée, Nicolas Marceau, tous ceux que j'ai vus là, pendant cette conférence de presse-là, bien expliqué, c'est clair. C'est... Là, parlez-moi de ça. Là, on développe l'Est de Montréal, on favorise où est-ce qu'il n'y avait pas de transport, on améliore le... On parle d'un projet, rappelez-vous, là, c'est 7 milliards, cette affaire-là. Là. En tout cas, beau projet. Puis je voulais, avant de partir l'émission, vous dire que... Je pense que la campagne électorale, elle va être agréable à suivre. Là, on va avoir une belle compétition. Ah oh oui, entre le Parti québécois et Coalition. C'est ça. Bon. Avant de commencer, je vais faire mon hommage. Vous savez, aimer, là, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important. Quand on aime, la définition d'aimer, là, c'est de donner quelque chose sans vraiment espérer recevoir. Tu sais, on donne... Puis un don, c'est un don. On veut rien en retour. Alors, je voudrais porter hommage. J'aime ça, porter hommage aux athlètes durant les Olympiques ou à quelqu'un de connu. Là, ce coup-là, c'est plus fort que ça, mon hommage aujourd'hui. Je veux porter hommage à Nathalie Côté. Nathalie est mariée. Elle est mariée avec Bruce Arsenault. Il y a un problème de rein. Elle y a donné un rein. Tu bouges, ça? Ça a eu lieu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le plus beau que ça, là, ce que, moi, je suis phénoménal, là, c'est plus qu'aimer, là. C'est mon amour, je t'aime, je veux pas te perdre, voici un rein. Là, lui, c'est fini ketchup, plus de dialyse, là. Tout va bien. Il est avec elle maintenant. Mais l'hommage va également à lui, parce que quelqu'un lui a demandé « Ça a été quoi ta réaction? » Il a répondu « J'y ai dit non. Prends pas de chance. Ta santé va bien. T'es bien gentille. » C'est-tu phénoménal, ça? Finalement, ça s'est fait. Ça a bien été. Tout le monde va bien. Mes hommages, Nathalie Bruce. J'espère que vous en avez pour 25 ans ensemble. C'était mon hommage. Aujourd'hui, on va parler de Montréal. Pas mal de Montréal. D'ailleurs, j'ai un invité un peu plus tard. Ça sera pas long, je vais aller quand même assez vite pour arriver avec un invité qui s'y connaît, qui travaille pas mal à Montréal. Pourquoi je l'ai invité? Différentes raisons. Mais je vais y revenir tout à l'heure quand on va tous le rencontrer ensemble. Avant, je voudrais juste dire et répéter, comme je le dis tout le temps, Montréal, là, c'est une ville. Une ville, ça rend des services. Ça veut dire que pour un dollar que tu donnes à l'hôtel de ville, tu prévois recevoir des services. Tu ne t'attends pas à une création de comité d'à peu près n'importe quoi pour ralentir la prise de décision de quelqu'un qui est élu pour te rendre service. Cette personne-là est élue, elle doit savoir comment fonctionne Montréal. On dit tout le temps, Montréal, ou en fait, Montréal, peu importe la ville, là, c'est déneigement, lampadaire, lumière rouge, lumière verte, police, pompiers, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quasiment ça. Mais Montréal, en plus, j'avoue, vous vous rappelez de ça, là, tout le monde veut qu'on l'appelle la métropole. Donc, mettons que c'est une grosse ville. Mais ça ne sera jamais un gouvernement. Si je dis ça, c'est parce qu'il se passe différentes choses et je me dis tout le temps, c'est-tu parce qu'il vient d'avoir des élections puis parce que tu es élu, tu dois dire merci à des gens, ou je ne sais pas. Là, c'est la création des comités. Là, il vient d'en avoir un autre hier, là. Là, c'est pas des blagues que je vous dis là. Oubliez pas, là, Montréal, là, c'est y a des... Vous voyez bien, là, des commissions permanentes, là. Ça, c'est la meilleure façon de ralentir une prise de décision. Quand quelqu'un qui est élu connaît pas Montréal, connaît pas son arrondissement, ça s'en va d'une commission, puis là, il rencontre les citoyens qui posent des questions, puis ils ralentissent, puis à un moment donné, ils essayent de vous faire oublier votre question, puis ils s'en occupent pas. Ça, là, c'est des comités. Moi, là, des comités, là... En tout cas, tout ça pour dire que je peux pas croire qu'hier, un nouveau comité. Là, il va s'appeler... Ah, non, ils ont changé de nom. Une table sur la diversité. 15 personnes vont s'asseoir ensemble pour évaluer comment est-ce qu'on va travailler avec Montréal et sa diversité. C'est quelque chose que j'ai manqué, moi, quelque part, là. Là, c'est... J'en veux pas aux 15 personnes qui sont sur ce comité-là, là. C'est pas ça, le point. Moi, le point, c'est... Hey, c'est Montréal, là. Si vous avez de la difficulté à comprendre Montréal, là, ben... Je sais pas ce que vous faites à l'hôtel de ville, prendre des décisions, puis là, créer un paquet de comités pour essayer de ralentir tout ce qui devrait être fait. Premièrement, je le répète, moi, là, qu'elle soit jaune, blanche, rouge, qu'elle mesure 7 pieds, 3 pieds, que ce soit un gars, une femme, même, comment vous appelez ça, la nouvelle mode, transgenre, mon point est pas là. Je veux de la compétence. C'est un service que vous me rendez. Rendez-moi le service, soyez compétent. Quand je parle avec un fonctionnaire, j'appelle à la Ville de Montréal. Hey, je peux-tu avoir une réponse, là, au lieu de me faire dire « Ah, vous n'êtes pas au bon endroit. » Et là, ça se transfère et « Ah, je comprends pas qu'ils vous ont pas répondu. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous étiez à la bonne place. » Hey, on peut-tu avoir de la compétence? On peut-tu avoir des gens performants? Là, là, qu'on crée qui... Je le dirais vraiment assez, là, peu importe. Moi, là, peu importe. Compétence. Compétence. Pourquoi je dis ça? Prenez un exemple, okay? Je vais vous en donner un tout de suite. Il a neigé il n'y a pas longtemps, là. Bon. Puis, ce coup-là, c'est vrai, il y a eu un petit redoux. Donc, il y a des places qui avaient moins de neige. Non, c'est pas de même que ça a marché. Let's go, on sort tout. Avez-vous ça, des souffleuses? Des grosses souffleuses, ça se fait pas de neige. Pas grave. Je sais pas ce qu'elle poussait, ça tombait dans le camion. Savez-vous combien ça coûte, le déneigement, en passant à Montréal? 163 millions, c'était le budget. Puis là, quand on fait ça mur à mur, sans penser qu'il y a des endroits, peut-être que, tu sais, on pourrait demander au col bleu ou aux fonctionnaires ou ceux qui sont responsables, dire, bon, ben là, on fera pas telle rue ou je ne sais pas. Là, il y a des ajustements qui peuvent se faire. Et ça a coûté 20 millions. Puis il n'y avait pas de neige partout. Je ne veux pas critiquer à l'extrême, mais je veux juste vous faire remarquer une chose. 20 millions, ben, c'est 163 millions, pour, il évalue à peu près 5 tempêtes, là, tu sais. Fait que faites votre calcul, là. Hein? C'est une trentaine de millions, là, de la tempête, grosso modo, mettons. La dernière est moins chère, ils ont sauvé à des places. Tout ça pour vous dire que, rappelez-vous ce que je vous dis là, 20 millions, là, c'est de l'argent en tabarouette. À preuve, la mairesse actuelle a créé un petit comité qui fait la vérification pour les logements qui sont insalubres à Montréal. Rappelez-vous de ça? Ça a fait tous les grands médias. Elle a investi 1 million. 1 million! Ça a fait tous les réseaux, la grosse affaire. Finalement, la mairesse est propre. 1 million. Un petit comité qui va vérifier les logements insalubres de façon à pousser les propriétaires à rendre ça propre. 1 million, ça a fait tous les médias. Déneigement, ça a coûté 20 millions, ça a passé inaperçu. L'argent, là, c'est très important pour le payeur. Et c'est là que je vais en venir. Au lieu de créer des comités, là, commencez donc à penser compétences. Je pourrais vous en donner d'autres exemples, juste la dette. À chaque pièce que vous donnez en taxe à Montréal, là, il y a 16 cents et demi, quasiment 17 cents, 16,7 cents, rien que pour la dette. Juste les intérêts. Ils appellent ça le service de la dette. Pourrais-tu s'en occuper, elle, un peu? Je sais pas, là, au lieu d'emprunter, puis tout le temps payer juste des intérêts, pas de capital. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Eh, bonté! Hey, 20 maires, 19 arrondissements, 20 maires. La mairesse est maire de Montréal, elle est maire d'un arrondissement. Là, tout pour que personne ne sache qui mène quoi. Là. Puis là, Denis Coderre qui a créé un bureau, il l'appelle le Big. Bureau de quelque chose, là. B-I-G. Ça dit-tu quelque chose à quelqu'un, ça? Le Bureau d'Investigation Générale, là. Il a été créé en 2014. On vérifie ce qui va pas bien à Montréal. Vous ferez remarquer qu'on est en 2018. Le Big vient de s'apercevoir qu'on ramasse les vidanges de d'autres villes. Pas depuis 2014. On paye depuis 2008. Je vais le trouver le nom. Ça s'appelle le Big. Bureau Ce bureau-là, là, de 2014 à 2018, là, il a coûté 16 millions et demi de dollars. C'est supposé être là, là pour pogner quelque chose qui se passe de pas correct. Corruption dans les contrats à la ville. Et ils viennent voir là, que ça a duré un an, là, et finalement, en 2017, ils ont dû réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe de pas bien. C'est fait. Depuis 2008. Sacrifice. Là, la mairesse est toute pompée. On payera pas les vidanges des autres villes. Hey, hey, Mme Plante, je vais vous en donner un, moi, un exemple. C'est à vous que ça fait une opposition officielle à la ville de Montréal. Tu sais, quand on n'a pas des équipes, là, des équipes, là, des équipes de Nicodère, des équipes Coalition, des équipes Projet Montréal. Tu sais, on est la seule ville, là, qui a des équipes. Puis là, quand il y a des équipes, ben là, tu fais attention, c'est peut-être ton équipe qui est à telle place, tu peux pas critiquer. Mme Plante, va vous en donner un bel exemple, moi, de cette affaire-là, on ramasse pas les vidanges. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là, Richard Bergeron? Ha! T'es le chef, ça. En 2008, t'es le chef de Projet Montréal. Il faisait quoi, lui? Il faisait quoi à Montréal? Il servait à quoi? Il a jamais pensé vérifier, peut-être, hein, on va essayer de voir si c'est bien géré à Montréal. C'était lui le chef. Chef de l'opposition, c'est lui qui pose des questions au maire, c'est lui qui pose des questions sur le budget. Puis il est là pour rendre service. Il aurait pu rendre service aux citoyens, poser des questions à l'administration en place. En passant, vous allez me dire que c'était un maire qui se rappelait de rien, là, M. Tremblay. Mais c'est pas grave, c'était M. Bergeron qui était à l'opposition. Mme Plante, on va aller plus loin que ça. Savez-vous qui a remplacé Richard Bergeron? Denis Coderre l'a engagé. Qui est rentré là? Luc Ferrandez, maire par intérim. Mais lui, là... Il faisait quoi, lui? Chef de l'opposition intérimaire à l'Hôtel de Ville. Vous savez où je m'en vais, Mme Plante, hein? Vous avez été chef de l'opposition avant la campagne électorale. Vous aviez le temps. Vous avez dit à tout le monde, j'ai jamais vu le budget. Comment voulez-vous qu'on sache qu'il y a un trou de 360 millions? On n'avait pas le droit de voir le budget, le voyez-vous bien, Mme Plante? Ça, c'est le budget là, de 2017, puis je l'ai en main depuis le printemps 2017. Vous étiez la chef de l'opposition. En passant, on va vous en faire une belle parenthèse. Venez vous asseoir avec moi ou envoyez-moi, là, comment vous l'appelez, votre bonhomme là, des finances là, qui a découvert 360 millions. N'importe quand, moi, il en posait des questions. Je l'ai devant moi, le budget, je l'ai regardé à grandeur. J'ai même été chercher, Mme Plante, le budget de 2018. Je suis pas élu, là. J'ai tout simplement demandé le budget. Vous étiez chef de l'opposition. Ça, puis là, en pleine campagne, vous, pouf, à la fin de la campagne, ah, ben là, on a découvert 360 millions d'argent de mal budgété. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez sorti. C'était impossible. Je l'avais, le budget, dans les mains. C'est faux ce que vous avez dit. J'ai même regardé votre budget. J'étais en train de travailler dessus. La seule chose que j'ai trouvée qui était vraie, par exemple, en dedans d'un an, vous vous êtes entouré. Un an. Vous êtes élu en 2017. Et là, alentour de vous, on appelle ça des services administratifs, du staff qu'on augmente alentour de vous. C'est drôle, cette petite place-là qu'on appelle services administratifs, ajout aux dépenses. 3 millions. Vous venez de battre Denis Coderre. Denis Coderre, lui, la première année qu'il est rentré, là, a dépensé 2,4 millions. Moi, je dirais pas ça, là. Moi, je veux pas être bête. Vous voyez bien, je crie jamais. Fait que je dirais jamais qu'il a donné des salaires à des amis proches de lui pour être bien servi. Mais vous l'avez battu, 3 millions. Ça, je l'ai vu dans le budget. Mais votre 360, là je le sais son nom, M. Doré, Benoît Doré. Viens t'asseoir ici, M. Doré, juste ici, à côté de M. Croteau. Il va être juste là, le maire de Rosemont, le meilleur administrateur de Montréal. Venez-vous-en tous les deux, on va en parler de votre budget. Sacré! La seule excuse que vous avez, c'est parce que ce budget-là, c'est pas le vôtre. C'est vrai. C'est vous qui l'avez fait et c'est vous qui simulez. Je l'accorde. Mais venez pas me parler de 300. Dites ça aux journalistes. Aux journaleux. Il y en a qui disent des journaleux. Big. Bureau de l'inspecteur général. Là, vous avez juste à faire une référence à ce que je disais tout à l'heure. Le big. Bureau de l'inspecteur. Il a coûté 16,5 millions depuis sa création. Le bureau de l'inspecteur général que Denis Coderre a dit, on va mettre ça en place. Plus tu mets des structures alentour de toi pour prouver que t'es honnête, moins t'es honnête. Tu claires ça? Fait que Mme Plante, enlevez-les donc ce bureau-là, puis faites donc votre job en tant qu'élu. Vous êtes là pour rendre des services. Calique, créez, il n'y a pas de comité. Tiens, je suis pas choqué. Bon. Et tu parlais des vidanges? Oui, on a parlé. Moi, j'en fais une vidange. Ma vidange. Aïe, 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 aïe. Ça me tente de vous présenter l'invité, mais je vais m'en rajouter un autre. Oh! Ah, oh, j'y vas-tu? Ah, oh, je suis aussi bien. Je lis beaucoup quand vous me parlez lors de l'émission, vous m'écrivez des commentaires, puis des fois, il y en a qui me posent des questions, pas retardataires, mais des questions qui visent directement les sujets du jour. M'a répondre, me rappelle plus de qui, mais m'a vous répondre. M'a même vous dire, moi, ce que je ferais. La Formule 1. Eh, sacrifice. Ça allait bien, là. Je me suis pas choqué encore. On va partir, là. Hey! Pendant la campagne électorale, moi, là, déjà au mois de juin, je disais la Formule E devrait s'en aller à Gilles Villeneuve. Là, je me suis mis à évaluer si c'était tout possible, mon affaire. Et oui, ça se tenait. Sauf que ce que je n'avais pas entendu dire et que j'ai appris début juin, fin juin, c'est qu'ils refaisaient les paddocks cette année à Montréal, au circuit Gilles Villeneuve. Alors là, on a appris que c'était à refaire et que le budget était de 32 millions pour faire les paddocks et on va faire ça juste avant la course de 2018. Ouais. Ouais. Là, il venait d'avoir la Formule E dans le centre-ville à Montréal. C'était pas un succès. Là, je savais qu'on pouvait plus l'envoyer à Gilles Villeneuve. Moi, je l'aurais négocié serré. Puis le président de, je sais pas comment ce qu'il s'appelle, là, j'aurais fait comme au Mexique. J'aurais fait comme il y a d'autres pays qui ont dit, ben, si ça fait pas ton affaire, va-t'en. Moi, je te l'aurais arrangé. Voyons donc, on se sert de la course Formule 1 à Montréal. Puis après ça, le circuit ne sert pas. Voyons donc, hey, moi je te ferais rentrer ça. Le NASCAR, Formule 1, Formule E, Formule A, B, C, D, E. Sacrifice! On va le rentabiliser, non? En tout cas. Fait que là, avant de me choquer, je vérifiais ça. Puis je disais, si on ne peut pas l'avoir pour l'année des paddocks, on fait le tour des 19 arrondissements. Au lieu de le mettre en plein centre-ville, m'a toujours bien vérifié. Il y a peut-être un arrondissement, je ne le sais pas, moi, Roxborough. Y a-tu quelqu'un qui est allé demander à Roxborough, « Hey, si on vous occupe vos rues pendant 2-3 semaines, là, un peu de bordel, un peu de barda, peut-être votre petite économie locale va marcher mieux, puis tu dis, ah, ben, on ferait ça là un an. On vous le jure, c'est rien qu'un an. Puis on prépare, parce que les paddocks vont être refaits. Après ça, on va négocier, puis on va envoyer ça à Gilles Villeneuve. Mais tu sais, je ne l'aurais pas fermé. Là, Valérie Plante a cancellé cette affaire-là. Ça va venir avec une pénalité, je vous le dis tout de suite. Pour en revenir à mes paddocks, bon, Donc là, le temps avance. Oubliez ça, 2015, c'était plus 32 millions. 48 millions. En plus, sacrifice, il ne s'est pas compté. Donc là, moi, je vous le dis, Coderre, ça va finir, c'était le pire maire en gestion. Mais là, Valérie Plante est en train... Je pense qu'elle essaie de le battre. Là, il va falloir qu'on paye là, cette affaire-là. C'est pas fini, c'est pas réglé, ça, là. Là. Ils vont revenir, eux autres, vont dire, « Hey, tu nous dois tant, là, t'as signé 3 ans, là. » J'ai hâte de l'avoir répondre. « C'est pas moi, c'est Coderre. Hey, tu représentes l'administration de la ville. C'est toi qui as le poste, c'est toi qui vas payer. » Voyons donc. Ceci dit, je viens de mentir. Ça sera pas 48 millions. Ça va être 76 millions, les paddocks. Mme Plante, ce que vous avez dit là, la semaine passée, là, c'était pas bien, bien fort. J'irai pas loin. Mais si j'ai bien compris, votre comité n'a pas encore pris la décision. Allez-vous accepter la soumission de 76 millions parce que ça ne fait pas votre affaire? Écoute-moi bien, Valérie Plante. La course, c'est du 8 au 10 juin. On est fin mars, là. C'est le printemps aujourd'hui. Ben hâte de voir, moi. Alors, refuse-la donc, cette soumission-là, pour rénover les paddocks, soyez prête au mois de juin. J'ai hâte de la voir, celle-là. Hicolique, ça coûte cher se faire rendre des services. Ça prend de la compétence. Pour ça, j'ai un invité aujourd'hui, Raymond Ayas. Raymond Ayas, c'est un homme d'affaires, Canada Montréal. Raymond Ayas, il est né à Montréal. T'es un Montréalais. Par définition, si je dis Montréalais, t'es un Québécois, hein? Par définition, si je dis ça, là, un Québécois qui réussit, il réussit en tabarouette. Lui, il fait affaire avec la ville de Montréal. C'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. L'émission, ça s'appelle « Le candidat ». Là, c'est à vous autres à essayer de trouver s'il y a des ambitions politiques. Mais, pas moi qui vais vous le dire. Donc, c'est un homme d'affaires, M. Ayas. Vous m'avez entendu, M. Ayas? Raymond, ça me fait plaisir.
Parfaitement.
Ça me fait plaisir de te rencontrer, Raymond. Une question. On ne reviendra pas, là, OK, sur la Formule 1. Formule E, c'est un petit peu futuriste, hein? Électrique. Mais je n'ai rien qu'une question. Je veux parler du futur. Raymond Ayas, vous êtes négociateur. Souvent, vous achetez, vendez, industriel, commercial, Montréal.
On loue. On loue beaucoup.
Hein? Beaucoup?
Oui, on loue beaucoup d'espace.
Vous travaillez énormément avec les gens de façon à ce qu'ils soient bien servis.
Dans notre industrie, vous voulez parler de mon industrie?
Oui.
OK. Donc, ma compagnie à moi et mon partenaire, surtout mon partenaire, c'est une agence d'immobilier commercial. Okay. Donc, on va louer des espaces, que ce soit des espaces de bureaux, des espaces industriels. Et donc, c'est ça, surtout.
Ça peut être dans un parc industriel.
Absolument.
OK.
Absolument.
OK. Ça peut aller du résidentiel, mais surtout, on s'en va commercial industriel.
Absolument.
On est-tu prête à Montréal, l'économie du futur? On est-tu prête à recevoir? Quand vous avez des gens qui louent, c'est des gens qui peuvent arriver pour différentes raisons. On est-tu prête, nous autres, à Montréal, là, à s'en aller vers?
Quand on parle de compagnies qui œuvrent à Montréal, ouais, qui louent des espaces, qui agrandissent, on parle de sociétés qui sont surtout déjà établies. OK? Et il y a aussi des investisseurs étrangers qui viennent s'installer dans des différentes industries. Le Québec a des atouts, Montréal a des atouts.
S'en sert-tu bien?
On s'en sert bien pour l'instant, mais l'économie change. Le monde change. L'économie change et l'économie du futur ne sera pas l'économie d'aujourd'hui. Mais si on veut parler du futur, là...
Attends, l'économie du futur ressemble pas à l'économie d'aujourd'hui.
Absolument pas. Ben, vous savez, quand il y a eu la révolution industrielle, les gens ont quitté les fermes parce qu'il y a eu une automatisation.
On s'en va vers une économie de service, les gens?
On est déjà dans une économie de service.
OK. Ah, okay. Puis ça va encore changer.
Ça va changer encore plus. Je peux vous parler de... Je vais vous donner un exemple. J'ai vu récemment, vous allez dire c'est un peu niaiseux, j'ai vu récemment une vidéo d'une machine qui flippe un hamburger. OK? Des tâches manuelles se font remplacer progressivement. Et tout le monde dit « Ah, ben c'est super, de toute façon, flipper des hamburgers, ça, c'est pas des jobs qui créent beaucoup de valeur, ça contribue pas en impôts, c'est pas intéressant, tant mieux, on va créer des nouvelles industries. » Ben super, il y a des gens qui développent, il y a des gens qui… Excellent. Et les gens disent « C'est correct » parce qu'ils pensent que la pensée complexe ne sera pas remplacée. Or, la pensée complexe est déjà en train de se faire remplacer. Ça fait 20 ans que l'ordinateur IBM, là, comment ça s'appelle, Big Blue, en tout cas, celle qui avait joué contre le grand maître d'échecs, puis l'a battu. Oui, exactement.
Spassky.
Deep Blue,
c'était-tu Spassky,
le russe, là.
Je ne me souviens pas de son nom, mais, mais bref.
Non, je comprends.
J'ai des amis médecins qui ne sont pas de la littérature médicale maintenant, et ils sont en train de voir que leur job est en train de se faire remplacer par des ordinateurs. Les ordinateurs font moins d'erreurs. Les ordinateurs sont capables de faire les tâches complexes.
Où est-ce que ça
s'applique? On ne parle pas seulement dans les chirurgies, là, on parle dans le diagnostic aussi.
OK.
Donc, si... Moi, j'ai très peur. J'ai très peur pour mes enfants. Très peur pour la génération. Là, si tu as 25 ans aujourd'hui et tu n'as pas... des compétences dans le bon secteur, bonne chance. Bonne chance. Puis Montréal n'est pas prêt à ça. Et ce changement va être fait partout au monde. Il va être fait partout au monde. Regarde, pas juste des taxis qui vont se faire remplacer par des autos intelligentes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'industries vont changer. Et on n'est pas prêt.
On n'est pas prêt. Montréal n'est pas prêt. Dans quel sens Montréal est prêt?
Montréal est une ville universitaire. On a 4 universités. On a beaucoup de collèges techniques. On a beaucoup d'atouts, sauf qu'on ne forme pas les gens dans les bons domaines.
Pour le futur.
Ben écoute, je sais pas. Les sciences molles, est-ce que ça va te nourrir ou nourrir une famille dans 25 ans? Pas sûr. Il y en aura des jobs dans toutes sortes de choses, les médias, ou comment dire. Il y en aura. Mais la production industrielle, la pensée complexe, pas sûr, ça va changer. Alors, si t'es pas capable de programmer, si t'es pas capable d'avoir, si t'as pas des compétences, là, si t'es pas capable de faire... certains domaines là vont être en demande. Là. Ça va être avec des machines, ça va être avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs...
C'est intéressant, mais juste avant d'aller trop loin, là on avance vite. Je veux juste revenir. Quand vous faites une demande à Montréal, quand vous dites, je sais pas, j'ai besoin de tel permis, ou confirmer que telle localisation, c'est industriel, ou un achat en fonction d'un agrandissement d'un client qui veut acheter, actuellement, on va à ville. Je veux dire, on va d'un bureau, on appelle un arrondissement.
Si t'as pas le zonage parfait, il faut aller aux autorités compétentes.
Ça va-tu vite, actuellement?
Ça va bien. Je dirais que, je sais que tu t'es présenté contre lui, mais je dirais que sous l'administration Coderre, Montréal était ouvert pour les affaires.
Bon, je suis content de l'entendre parce qu'effectivement, le maire Coderre, là, jamais je vais dire que le gars n'était pas ouvert, loin de là.
Non, il était très ouvert aux affaires. Puis je peux pas faire
très, très, très ouvert. Moi, je regarde plus au niveau du budget. On reniera pas ça, puis je renierai jamais ça.
Moi je regarde pas.
Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye les maudites taxes. Mais moi, je suis d'accord avec le client, le Raymond Ayaz qui s'en va, puis qui dit « Wow, l'administration sont recevants à Montréal, puis ils veulent de la business. »
Regardez là, au centre-ville de Montréal, c'est des grues partout.
Oui.
Puis c'est pas d'il y a 6 mois, là. Ça fait quelques années, il y a du développement.
Oui.
Puis là, je peux vous dire, parce que nous, nos clients qui louent des espaces de bureau, il y a les loyers nets, puis il y a aussi les autres composantes du loyer, les loyers additionnels, les frais d'opération et les taxes. Ça, c'est en croissance constante. Mais... les espaces se louent. Ça se loue. Je pourrais dire dans le dernier quart, dans le secteur de l'espace de bureau, le dernier quart en 2017, okay? Oui. Il y a un demi-million de pieds carrés qui ont été ajoutés. Il y a la maison Manuvie qui a été ajoutée. On a eu beaucoup d'espace qui est venu sur le marché, de l'espace nouveau, AAA. Est-ce qu'il y a 80 000, 90 000 pieds carrés qui restent? Ils ont été loués. Donc, il y a une activité. Ça se loue. Ça se loue aussi dans l'industriel. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tu sais, Ville-Saint-Laurent, là, tu avais des entrepôts, ça se louait à 6 $ brut, là. Bon, dépendamment des propriétaires et des immeubles, il y a des différentes qualités. Uh-huh. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver un entrepôt. Puis il y a de l'espace qui s'ajoute là, en industriel aussi. Il y a 1 million de pieds carrés qui ont été ajoutés. On s'attend, dans les derniers mois de l'année dernière, à ce qu'en 2018, il y en a plus de 300 000 pieds carrés industriels qui s'ajoutent.
On parle
dans le Grand Montréal, Grand Montréal, OK? Donc, Grand Montréal, ça va inclure, oui, les nouveaux entrepôts dans les secteurs industriels comme Saint-Laurent, mais aussi comme à Vaudreuil. On considère ça Grand Montréal. Donc, ça se construit, ça se loue. Maintenant, c'est quoi qui se loue? Il y a des différentes qualités. Je dirais que si les plafonds sont plus hauts, ça se loue beaucoup plus vite, ce qui veut dire qu'on fait moins de manufactures, plus d'entreposage. L'économie change. On est devenu une économie de consommation plus qu'une économie de production. Mais cela dit, il y a quand même dans le domaine industriel j'ai ce mot, les anglicismes, un driver, ce qui pousse la consommation des pieds carrés. Donc, il y a la technologie qui consomme beaucoup de pieds carrés. Il y a des centres de données, data center. Et c'est sûr que c'est très énergivore.
On est-tu en compétition à Montréal?
Dans le Bitcoin, on est compétitif. On est super compétitif.
Okay.
Oui, on parle de moratoire, de nouveaux projets énergivores à Hydro-Québec, mais il y a des transactions qui se font. D'ailleurs,
avant d'aller trop loin,
je peux m'emporter, là.
Oui, non, mais j'aime ça. C'est juste que je veux être certain qu'on comprend tout le monde, là. Quand on parle de data center, là, je veux juste être sûr que tout le monde comprenne. C'est des centres de données, là. C'est pas énergivore, c'est hyper énergivore, là. Ça tire du jus, les serveurs, c'est ça?
Les serveurs tirent du jus, puis les bitcoins en tirent encore plus.
Bon. À ce moment-là, là, lorsqu'il y a un client qui dit « ça m'intéresse et ça serait pour un data center, un centre de données, puis là j'ai des serveurs, ça tire du jus. » Approchez-vous au niveau Hydro-Québec ou carrément la ville. Est-ce que ces firmes-là vous demandent, es-tu capable de me trouver?
J'en ai des clients comme ça, on nous demande.
Peux-tu faire de la vérification pour voir si on peut avoir un meilleur taux selon combien on consomme de kilowatt-heure?
Oui, mais donc, il y a différents tarifs à Hydro-Québec.
C'est ça, puis là, il y a différents tarifs en fonction de la consommation que tu vas avoir.
Une Bitcoin peut consommer comme, je sais pas, comme Alcan, là, tu sais, c'est comme produire de l'aluminium.
Okay.
C'est très énergivore. Mais, vu qu'il y a moins de production...
Ça, il y a une demande à Montréal.
Je vous dis, là, il y a une demande au Québec.
Okay.
Mais où est-ce qu'il y a le talent? Où sont les gens qui savent utiliser et travailler avec les ordinateurs? Ils sont surtout dans les métropoles, ils sont surtout à Montréal. Donc oui, on a des clients qui disent « on veut ouvrir une usine Bitcoin à Montréal ». Ben oui, absolument.
Oui.
Ben, bon, cela dit... Il y a moins de production industrielle. Il y a moins de manufacture. Uh-huh. Donc, Hydro-Québec, en quelque part, perd des clients
oui.
qui consomment du jus. Donc,
oui.
est-ce que c'est une mauvaise chose que d'autres compagnies viennent les remplacer? Je ne suis pas Hydro-Québec, mais tu sais, il y a de la production, puis elle va être consommée. Fait que, il y en a des deals qui vont se faire.
Donc,
il y en a qui se font.
À l'œil de Raymond Ayas, Montréal est en train de se développer. Il y a des grues dans le centre-ville et c'est pas appelé à arrêter à court terme.
Non, c'est pas appelé à arrêter au court terme. Je vois l'économie d'un bon œil. Mais je pense qu'on doit prévoir des changements. On n'est pas prêt comme société à l'économie du futur. On n'est pas prêt pour les virages technologiques. Puis quand ils ont dit, bon, on va faire...
Mais ça paraît bien, ça donne fraude. Moi, je connais une ministre là, du patrimoine qui fait des grands mots.
On va faire du Wi-Fi à grandeur Montréal. C'est pas ça, là. C'est pas ça qui va nous projeter dans le futur.
Ah, c'est quoi l'exemple? Donne-moi un exemple.
On va faire le REM, on va faire le train, là, le fameux train que vous parlez tantôt.
Le fameux train.
C'est pas ça qui nous projette dans le futur. Ça, c'est du transport. C'est très important. C'est hyper important.
OK.
Mais c'est pas ça la technologie du futur, ça c'est des trains.
Un exemple, technologie du futur. Un exemple dans une firme qui va être appelée à disparaître si elle s'ajuste pas à l'économie du futur. Un exemple.
Beaucoup, là, j'ai même parlé de médecins tantôt. La pensée complexe va être remplacée par des ordinateurs. Elle l'est déjà. Tout va changer, tout va être bouleversé. Tout.
On parle pas de 50 ans, là.
Non, absolument pas. Non, non, non.
Court terme.
Je dirais dans les prochaines 25 ans, là, ça sera une autre révolution industrielle. Pire. Pire. On n'est vraiment pas prêt. Et c'est ce qui me trouble le plus. Parce que tout le monde s'en fout de ça. Et personne ne veut regarder le futur. Personne ne veut se préparer. On est quand même en train de donner des cours de toutes sortes de cours. J'ai beaucoup d'estime pour les gens qui font des études. J'ai fait un bac en biochimie. On n'en fait plus de biochimie au Québec. J'ai une job pour 9 mois à Wyatt qui a été avalée par... On n'en presse plus des pilules ici. Elles se font presser en Inde. Ils sont capables, ils ont des plans, comme ils disent, cookie cutter, ils arrivent, ils disent, ah, cette usine-là, bang, on va la faire en Inde. Bang, on va la faire... Ils parlent l'anglais, ils comprennent nos protocoles. C'est fini. Il n'y en aura plus. On ne va plus presser des pilules ici. Pourquoi on va les presser ici? Parce que le gouvernement va dire, ah, j'ai le monopole sur l'assurance médicaments et je vais imposer à Apotex ou à n'importe quelle compagnie de faire 10 % de sa production ici. So what? C'est ça qui va... Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas le gouvernement qui peut imposer une production. Ça, c'est de l'économie dirigée, du communisme. Il faut que on doit changer la façon qu'on regarde la production, qu'on regarde l'économie. Il faut qu'on forme les jeunes étudiants dans des secteurs d'avenir. Ça, c'est crucial. Sinon, personne ne va travailler ici. Puis ton condo qui est 350 000 ou 400 000 au centre-ville, ça va juste être l'investisseur étranger qui va être capable de se le payer parce que personne ne fait les jobs qui payent. Parce que ce condo-là à 350 000, dans 10 ans, il vaut 450 000, puis dans 20 ans, il vaut 600 000, puis ça va être comme New York, puis comme... La ville grandit, il y a plus de monde qui rentre, il y a de l'immigration, c'est super, c'est un bon driver d'économie. Peut-être que si on arrête l'immigration, l'économie va s'effoirer, puis l'immobilier résidentiel va s'effoirer. Je ne sais pas. Je pose la question. Mais avec la pression constante, nos appartements restent remplis. J'en ai géré des appartements. Je connais cette business très bien. Avant d'aller en commercial, j'en ai géré des appartements, des centaines d'appartements. Les appartements sont loués. Les condos, ça se vend quand même, là. Peut-être un peu plus lentement la cadence, mais ça se vend pareil. Là, les prix ne sont pas en train de tomber. Ils se maintiennent, puis ils continuent à croître un petit peu. Peut-être la vélocité a diminué, mais ça continue. Donc, les prix vont continuer à monter. Qui va les acheter, ces maisons-là? Avec quel job? C'est ça les questions qu'il faut se poser.
Non, je comprends très bien. Je suis bien content de vous avoir reçu. C'était une autre façon, un autre angle de le voir. J'aurais aimé qu'on redescende, et c'est ce qu'on va faire, à Montréal.
Oui.
Vous l'avez glissé, j'attendais. Avec l'immigration qui s'en vient, croyez-vous réellement qu'actuellement, à Montréal, on a besoin d'un taux énorme d'immigrants pour occuper les emplois? Si vous me dites qu'on s'en va vers l'économie du futur, qu'il y en a de moins en moins
besoin... Je n'ai pas dit pour occuper les emplois. J'ai dit pour soutenir le marché immobilier résidentiel, très différent.
OK, OK. On ne parle pas d'emploi. On parle d'occuper les immeubles.
Les gens qui rentrent vont être soit des premiers acheteurs ou des locataires. Quand un locataire... fait le saut à sa première, qui devient premier acheteur. Il y a une catégorie de premiers acheteurs qui deviennent deuxième acheteur ou qui vont grandir avec le marché, qui vont peut-être acheter une maison un peu plus grande. Donc, ça prend pour que le haut de la pyramide reste en place. Il faut que le bas de la pyramide la soutienne. Et chaque rang de la pyramide, tu sais, on a besoin des gens qui viennent, qui louent, qui achètent leur première maison pour que les premiers acheteurs deviennent deuxième acheteur et pour que les prix continuent à monter. C'est partie de la game.
Ça, superbe. J'ai pas osé vous déranger. Monsieur Ayas, merci d'être venu.
Avec plaisir. En passant, j'aimerais dire.
Ah, ben allez-y. Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire, gênez-vous
pas. Super beau studio.
Ah oui.
Super beau studio.
Ah, ça, faut dire ça. L'équipe technique. André Pitt est phénoménal.
Mes hommages à l'équipe technique et mes hommages aux patrons qui soutiennent ce média. Très important.
Oui, c'est un média alternatif qui se veut alternatif, mais c'est phénoménal le travail qui se fait ici. Moi, je suis encore impressionné. On en est à notre neuvième...
Bravo.
Neuvième. Neuvième consécutif.
C'est super.
Mais M. Ayas, maintenant que... merci, ça m'a fait plaisir. Merci. On va laisser le mot de conclusion, je vais vous le donner et je vais tenter d'être bref. Il n'en a pas parlé et c'est quasi volontaire. Je n'ai pas voulu qu'il s'avance trop. M. Ayas va être sûrement réinvité. Sans vous dire ses ambitions, ses intentions, ça va être avant octobre 2019. Ceci dit, la prochaine fois, on va le faire parler sur l'immigration, ce qui se passe actuellement autant au Québec qu'au Canada. Je voulais vous l'introduire parce que c'est une personne connaissante, montréalaise, qui m'impressionne. Il est plus jeune que moi. Il est plus beau. Ceci dit, je voulais terminer avec une phrase célèbre que j'ai entendue cette semaine, et là, j'ai perdu ma phrase. Fait que j'aimerais bien ça vous la dire, mais que voulez-vous? Perdu ma phrase. C'est fou, là, je fasse. Le cadran sonne pour dormir de la nuit. J'ai même pas le temps pour une suite. Va m'en reconduire les filles écoles. La vague se réveille, on t'a si folle. Le support est encore bien full. J'contourne toutes les tirs de l'épaule. Moi, j'en vais tout déconner. La prochaine fois que j'en retourne à pied, le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même, ça marche. Facile, facile, faut bien tranquille. Eux autres qui chillent, eux autres qui pillent. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même, ça marche. Ils sont gentils, sous nous, ils sont à l'abri, eux, ils ont compris. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même, ça marche. J'ai un esclave, t'en rends du compte. Puis tous tes droits s'en vont à ton. Le gouvernement prend tout mon cash. Parce qu'au Québec, c'est le même, ça marche. Après une hostile journée de marde, le Canadien n'est juste de parle. Change de poste, c'est nouvelle qui joue. Ça va rien des virus de fake news. She's a front, puis sur le bend. Puis George Rose, fasse-tu sa graine. Le gouvernement prend tout mon cash.